Persuasion.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est femme libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 8e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène qui est à l'animation ce soir.
Voilà, et on recevra évidemment Laurence et Marie-Jo par téléphone tout à l'heure. Et nous avons déjà Jean-Philippe Martin. Bonsoir, bonsoir Jean-Philippe, qui nous parlera des paysannes. Alors l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, émission Trade Union. femmeslibres.blogspot.com. On peut réécouter les émissions, avoir le programme et on peut nous suivre aussi sur Facebook et Miss Cloud. Alors le programme Féminicide par Compagnon Wex, les Noyonnelles 2025, donc avec Laurence et Marie-Jo, et puis après Jean-Philippe Martin, paysanne, histoire de la cause des femmes dans le monde agricole des années 60 à nos jours, et c'est aux éditions de l'Atelier. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Mais avant même de parler des féminicides, je voudrais rappeler que ça fait 3 ans et un jour qu'il y a la guerre en Ukraine, que ça correspond à plus de 10 millions de personnes déplacées, c'est-à-dire à peu près le quart de la population, qu'il y a 200 000 personnes qui ont fui leur foyer uniquement sur les 6 derniers mois, qu'on a 2 millions de logements détruits, ça correspond à peu près à 10% de l'immobilier, et qu'il y a presque 13 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire, soit le tiers de la population. Et le tiers du sol ukrainien est contaminé par mines et munitions. 30% des emplois sont détruits. Voilà où on en est dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
9, c'est le chiffre recensé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France pour l'année 2025. Chiffre à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Donc le huitième féminicide s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 février à Sèvres-Moine, en Maine-et-Loire. Une femme de 45 ans a été tuée par son compagnon de 50 ans d'une balle en pleine tête. L'homme a reconnu les faits, mais prétend avoir tiré accidentellement alors qu'il était agressé par la victime. On peut en douter. Il a été placé en détention. Le 9e féminicide, jeudi 20 février à Coincourt, en Meurthe-et-Moselle, Gaël Stéphan, 36 ans, a été étranglé par son mari Alexandre Reynaud, 38 ans, dans leur voiture, garée dans un chemin isolé de la commune. L'homme aurait ensuite prévenu les secours en tentant de faire croire qu'il avait été ligoté dans le véhicule. Le message de Sarah, une des voisines de ce couple. Gaëlle est ma voisine. Savoir que son mari a osé plaider la folie passagère pour excuser l'inexcusable me révolte. Je ne dors plus depuis jeudi. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Bonsoir Marie-Jo et bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Bon, ben, ravie de vous avoir malgré les petits problèmes de ski, non ?
C'est ça, tout à fait.
Bon, ben, j'espère que tu souffres pas trop, Laurence.
Non, je souffre pas. Non, c'est déjà ça.
Voilà. Alors, aujourd'hui, on va évoquer les noyonnelles. Et j'ai vu que vous aviez un beau programme. Alors, est-ce que vous pouvez toutes les deux présenter ce que sont les noyonnelles à Noyon dans l'Oise?
Eh bien, les noyonnelles vont avoir 10 ans l'année prochaine, donc c'est quand même une vieille histoire de plusieurs associations locales ou de Noyon qui ont des activités très différentes par ailleurs, mais qui, sur le thème des droits des femmes, réussissent à travailler toute l'année et à faire des propositions intéressantes en termes d'action pour la population. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'était fait cette année. C'est une partie du groupe des noyonnelles a travaillé avec des enfants d'internat d'excellence sur la notion de consentement. Vous voyez, donc c'est des choses très concrètes. Et puis, évidemment, ce fameux festival qui a toujours lieu autour du 8 mars. Et cette année, il est très axé autour du cinéma, puisque nous avons la chance d'établir un partenariat régulier très efficace avec le Paradisio, qui est le cinéma de Noyon.
Oui, alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs films qui sont présentés. Alors peut-être qu'on va déjà écouter la bande-annonce. Ah ben non, c'est pas encore la bande-annonce parce que on va respecter le programme. Alors il y a des films qui sont présentés. On écoutera deux bandes-annonces tout à l'heure, mais il y a aussi des concerts.
Oui. Tout à fait. D'ailleurs, notre festival commence par un concert. On a invité un duo, Juan et Gaël, donc
Gaël Bargaud et Juan Manuel Nieto. Lui, il est pianiste originaire d'Équateur et elle, elle est clarinettiste chanteuse française. Ils se sont rencontrés en 2017. Depuis, ils jouent ensemble. Ils jouent un jazz très dynamique, aux confluences de cultures, de dialectes musicaux. Ils sont extrêmement sympathiques. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette initiative de se joindre, de joindre du jazz, on va dire, à notre festival, part de l'idée que le prochain festival de jazz de Noyon, qui a lieu au mois d'octobre, tous les ans, donc celui d'octobre 2025, va vraiment mettre l'accent sur les femmes dans le jazz. Donc on aura beaucoup de femmes qui vont venir. On va avoir une nouvelle marraine. On a déjà le parrain qui est Baptiste Herbin depuis longtemps. Il sera toujours là. Mais va se joindre à lui une marraine qui est Anne Passeo.
Et qui
va venir avec son spectacle Nanouk l'Esquimau, je ne sais pas si tu vois, donc qui est un magnifique documentaire des années 20 sur la vie des Esquimaux, et un des premiers documentaires d'ailleurs. Et elle, avec deux autres musiciens, elle est à la batterie, et les deux autres musiciens font la musique du film, si tu veux, toi. Donc elle sera là, et on en est très content, mais il y aura d'autres femmes musiciennes qui vont venir. On va les mettre à l'honneur, et en même temps, on va faire une conférence avec Marie Buscato, qui a beaucoup travaillé sur la difficulté des femmes, un certain sexisme dans le jazz, pour que les femmes aient une place n'est pas facile. Elle commence à s'en sortir, mais c'est quand même difficile.
Alors, donc, Marie Buscato, que j'ai accueillie dans l'émission à deux reprises, hein, et bon, c'était elle qui m'avait fait connaître Anne Passeo, d'ailleurs.
Ben voilà, donc voilà. Elles se connaissent bien, elles représentent vraiment le féminisme, hein, dans le jazz. On est vraiment très contentes, à la fois pour le festival de jazz du mois d'octobre, mais pour les Noyonnelles, cette année, de pouvoir mettre en place ce partenariat.
Alors donc, du coup, on va écouter Gaëlle et Juan dans un morceau qui s'appelle « D'ailleurs ».
Super.
Gaëlle et Juan dans un morceau qui s'appelle D'ailleurs, et on voit que c'est un jazz coloré et dynamique.
Tout à fait, oui. Ouais. Donc ça, on commence le mercredi 6 mars. Le lendemain soir, on sera au théâtre de Noyon, avec lequel on a le chevalet, avec lequel on a un partenariat. Et là, il va y avoir un très beau spectacle qui s'appelle Royaume. C'est un spectacle de danse. Oui, c'est ça. Un spectacle de danse et en même temps de témoignages qui se croisent dans une chorégraphie très belle, dynamique, qui porte la parole des femmes. Avec, on entend en fond sonore les voix de Simone Veil, de Françoise Giroux, sur un fond de hip-hop, de danse contemporaine. C'est très très beau. C'est vraiment un spectacle amené à la femme engagée, féministe. Je pense que ça va bien plaire.
Et puis après, le 8 mars, vous participez à la manifestation parisienne.
Voilà, pour une fois. Voilà, on a décidé cette année que le 8 mars, se tombant un samedi, et ben on ne ratait pas le coche. Et du coup, on propose donc aux personnes intéressées de se présenter à la gare le samedi matin à 11h10, de façon à ce qu'elle puisse...
10h10.
Ah bah oui, j'ai oublié qu'il fait une heure. Oui, c'est ça. Donc à la gare donc, de Noyon le samedi, pour prendre le train de 10h33, de façon à ce qu'on puisse être tous à la manif à 14h, place de la République.
Très bien. Et puis, le 8 mars à 20h, quand vous revenez, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est bizarre ça comme titre.
Oui, enfin, c'est le cinéma qui nous a proposé. À chaque fois, ils essayent de trouver un film et ils nous ont proposé ça. Bon, alors on a dit, écoutez, programmez-le, c'est pas tout à fait dans notre veine. Mais bon, ça leur faisait plaisir d'avoir ce film qui est plutôt un film, bon, d'après ce qu'on a vu, on l'a pas vu encore, mais sur la mère, hein, sur tout ce qu'une mère peut donner pour son enfant à travers tous les obstacles qu'elle peut rencontrer avec cet enfant en difficulté. Bon.
Allez, on va passer à April.
April. Alors, plus intéressant, April, on l'a programmé effectivement pour son sujet. Hein. C'est les 50 ans de la loi Veil. Et donc, on était vraiment très attachés à avoir un film autour de ce thème. April, c'est un film géorgien de D.A. Koulombegashvili, pas facile à dire, qui a déjà présenté un film en 2020 à Cannes, au commencement, hein, qui était un très beau film, qui avait eu le prix spécial du jury. Celui-là était présenté à Cannes, mais April, lui, cette année, 2024, a eu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Donc, c'est l'histoire de Nina, qui est une gynéco-obstétricienne dans la Géorgie actuelle, pas dans les grandes villes, dans la campagne, peut avoir des difficultés, fait très bien son travail, est très sérieuse, mais à la suite d'un accouchement qui se passe pas très bien, les mentalités se retournent contre elle en disant que peut-être elle pratique un avortement illégal. Alors, faut dire qu'en Géorgie, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines, mais que les mentalités sont très, 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 très difficiles, surtout dans les campagnes. Au total de toute la Géorgie, 69% de la population est contre tout acte d'avortement. 10% seulement acceptent un avortement, quelle que soit la cause. Et donc, il y a un combat, il y a un vrai combat qui est mené. On voit le combat mené par cette femme qui va résister, qui va rester stoïque contre la critique, qui va se battre. Et c'est un film qui est très beau parce qu'il y a le côté onirique qui se mélange à la réalité très crue. Et voilà, donc pour nous, c'est vraiment ça dépeint une lutte intemporelle des femmes dans un monde régi par les hommes, particulièrement en Géorgie. Ça sera l'occasion d'en discuter avec le public de la Géorgie, mais aussi d'attirer bien sûr la discussion sur où on en est de l'avortement aujourd'hui en France. Dans le monde bien sûr, mais en France aussi. Et on aura avec nous des amis du planning familial.
Voilà, c'est ça. Oui. Le planning familial sera lors du débat avec vous.
Voilà.
Alors après, La Nouvelle Femme, et c'est là qu'on va écouter la bande-annonce de La Nouvelle Femme.
Je vous ai fait ongelooflijk veel in uw mars.
Tu es toujours troisième en classement, non?
Et à quel club êtes-vous?
Ja, allez, police!
Was ook zoiets met een trainer of zo?
Si on a une qui doit y arriver dans le club, c'est toi.
Oui.
Niks. Il faut mij gewoon te willen aandacht.
Et nous avons le devoir, en tant que club, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour comprendre pour quelles raisons un joueur ne parle pas des problèmes qu'il rencontre.
Sorry, Lex Laden.
Plastix. Oui, Julie.
Ik ga er me nog wat meer vertellen, of dat was het?
Nos fautes, on fait la pause.
Forte.
Allez, come on. Let's go.
Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?
Hm?
Alors, la nouvelle femme, c'est Maria Montessori, n'est-ce pas?
Oui. Et oui.
Voilà, et une, oui. Une grande pédagogue pour les enfants, et y compris des enfants en difficulté.
Voilà, et l'idée, c'était effectivement de raconter l'histoire de cette femme qui a quand même marqué le siècle et même le nôtre, puisque les écoles Montessori existent toujours. Et c'était l'idée aussi de présenter une femme remarquable du XXe siècle.
Oui, et c'est un film de Léa Todorov.
C'est ce que j'allais te dire, un film de Léa Todorov. Voilà.
Voilà. Donc un très beau film, j'ai vu que la bande-annonce, mais j'imagine que c'est un très beau film. Voilà, qui était sorti.
Tu peux voir un noyau, il y a pas de problème. Hein.
Qui était sorti l'année dernière et qui va être largement, je pense, sur les écrans cette année. Ouais. Après, c'est encore un autre film avec l'affaire Nevenka.
Et ça, c'est effectivement l'actualité est très très très. Très, comment je dirais, actuel, je ne sais pas si dois dire, l'actualité est actuelle, ça on n'aura jamais dit autrement. Non, on revient sur tout le problème du harcèlement et des femmes en politique. Et là, l'affaire Nevenka s'appuie sur un fait divers qui a lieu dans les années 90. Une jeune femme de 25 ans, Nevenka Fernandez, a été conseillère municipale donc auprès d'un maire très charismatique et populaire, à Ponferrada, Ismaël Alvarez. Et pour cette jeune fille, c'est le début d'une descente aux enfers, car elle est manipulée, harcelée pendant des mois par ce maire, et pour s'en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui attend un procès. Et en fait, cette histoire d'Evanka, c'est la première fois qu'une femme arrive à gagner ce type de procès, et donc met en place le premier MeToo politique en Espagne sur ce sujet.
Alors ça sera donc le 11 mars, on n'a pas dit, mais pour...
Le 10 mars. La nouvelle femme, c'est le 10 mars.
Non, la nouvelle femme, c'est le 10 mars, mais l'affaire Nevenka, c'est le 11 mars.
C'est le même soir, en fait, tu vois, finalement. C'est ça, c'est le 11 mars à 20h, l'affaire Nevenka. Et puis, donc, la nouvelle femme, c'est la veille, le 10 mars.
Ouais. Alors, il y a aussi Vaiana 2.
Voilà, au mercredi, il y a les enfants. On a toujours envie quand même de faire un film pour les enfants. On cherche une héroïne, hein, on arrive quand même à en trouver. Bon, là, c'est une héroïne de Disney, c'est vrai. C'est un Disney classique, mais quand même subtil, avec des jeunes filles, pas que Vaiana, elle a sa copine, qui sont courageuses, intrépides. Et c'est un film, on va dire, au fond, qui apprend à grandir. Alors, qui montre la place des filles, hein, qui sont aussi même plus dégourdies dans le film que les hommes, et courageuses que les garçons, mais qui apprennent globalement aux enfants sans doute à grandir. Voilà, c'est un joli film de Disney. On y convie les centres de loisirs, on offre les places gratuitement aux enfants, le pop-corn aussi, donc on espère quand même qu'on va avoir du monde.
Voilà, alors on n'a pas dit, mais pour les films, en général, c'est vous demandez 5 euros. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà, les adultes, les films adultes ou les parents qui viennent avec leurs enfants, c'est 5 euros, c'est ça.
Ouais. Alors.
Vaiana, c'est 4 euros. Ah, c'est même 4. On a encore mieux négocié cette année.
Pour Vaiana, c'est jeune public, donc c'est moins cher.
Tout à fait.
Voilà, et encore un autre film avec Julie Setet, et on va écouter la bande-annonce aussi.
D'accord.
Ongelooflijk veel in uw mars.
C'est toujours le troisième emplacement, non?
En van welke club zijn jullie?
Ja, allez, police!
Er was toch zoiets met een trainer of zo?
Si on a une qui doit y arriver dans le club, c'est toi.
Oui, ça.
Niks. Ik mag gewoon te veel aandacht.
Et nous avons le devoir, en tant que club, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour comprendre pour quelles raisons un joueur ne parle pas des problèmes qu'il rencontre.
Sorry,
Lex Laden. Plastics. Oui, Julie. Je vais me nog wat meer vertellen,
of
dat was het. Allez, je suis fort. Pas.
Fort.
Allez, come on. Go.
Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?
Alors Julie se tait, c'est une sportive.
2024 de Leonardo Vandige. Alors c'est un beau film dur sur le harcèlement dans le sport, notamment le tennis. C'est une jeune fille brillante, une grande sportive qui va sans doute atteindre de très bons résultats. Et elle est prise dans un dilemme entre tout faire pour atteindre ses objectifs et donc ne pas dire ce qui se passe et quand même arriver à le dire. Et c'est beau tout ce processus de jeunes qui sont prises, enfin de femmes. Hein, bah, elle, il se trouve qu'elle est jeune, mais moins jeune aussi. Qui sont prises dans cette emprise du coach, bien sûr, ce harcèlement, et comment s'en sortir, comment y arriver tout en ne brisant pas sa carrière sportive. Et c'est très bien mené, c'est très fin comme film, oui. Mmh.
Voilà, et du coup, Femmes d'aujourd'hui propose en partenariat avec le Centre social municipal du Mont-Saint-Siméon, Saint-Siméon, oui. Il y a un café parole, il y a travail et droits des femmes, et il y a même un tournoi de foot mixte.
C'est ça, voilà. Et enfin, on a une exposition, hein, tu veux le dire, Marie-Jo?
Tout à fait, très belle. Donc une nouvelle Noyonnelle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais qui fait des installations étonnantes, et elle a été très très bouleversée par l'histoire de Gisèle Pellicot, et je vais essayer de raconter un peu ce qu'elle a imaginé à partir de cette histoire-là. Donc vous imaginez un mannequin très haut, il faut faire 2,50 m, 3 mètres de haut, ouais. Donc le buste blanc au-dessus de ça est nu, on ne voit rien, enfin, c'est comme si c'était anonyme. Et en dessous, à partir des seins, c'est un tissu, le tissu qu'on utilise pour faire les matelas, donc qui symbolise le lit sur lequel Gisèle a souffert toutes ces années. Et en façade, quand on regarde le mannequin de face, vous voyez le portrait de Gisèle Pellicot qui a été imprimé via un cyanotype, c'est-à-dire une technique qui permet de retranscrire une photo, mais dans des couleurs bleues. Et c'est très, c'est un peu trash, je dirais. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Et autour de ce portrait sont brodés le nom des... Sur les robes, oui, c'est ça. Sont brodés donc le nom des 51 inculpés donc du procès de Mazan, que tout le monde sait que c'est Gisèle Pellicot qui, pendant une dizaine d'années, a été violée par des inconnus, amenée dans sa chambre par son mari, qui utilisait pour ça un site internet. Et quand on fait le tour du mannequin, dans le dos du mannequin, il y a toutes les paroles insanes qui ont été prononcées pendant le procès et qui ont frappé Elisabeth, et qui a brodé tout ça dans le dos de ce grand mannequin. Donc c'est très expressif, et moi l'avoir vu, ça m'a... Alors je pense que je ne suis pas la seule.
Donc elle s'appelle Elisabeth Ennuyée, hein, c'est ça. Donc c'est une artiste plasticienne, voilà. Et c'est exposée le 7 mars au Théâtre du Chevalet.
Oui, et à partir du 9.
Et à partir du 9 au cinéma.
Voilà, le 9 au cinéma.
Voilà, le Paradisio, d'accord.
Voilà. Et l'installation s'appelle « Quand tu dors, Gisèle Pellicot ».
Mmh. Très bien. Bon, mais c'est un beau programme, hein, pour Noyon, une fois de plus. Oui. Mmh. Et donc, l'année prochaine, ça sera les 10 ans.
Voilà. On va essayer de faire être encore mieux l'année prochaine.
Déjà là, je trouve que il y a de quoi faire. Mais malheureusement, je ne viendrai pas à Noyon, moi. Mais on peut avoir des auditrices et des auditeurs qui viendront. En tout cas, on les invite à s'ils sont pas trop loin ou s'ils ont du temps, à aller à Noyon. Noyon, c'est une heure de train de Paris.
Oui, voilà. Et si elles y viennent, qu'elles viennent vers nous dire voilà, on vient de Paris, ça nous fera très plaisir.
On l'a su par femme libre.
Voilà. Et nous, c'est la période aussi où la librairie Publico, on fait une bonne quinzaine d'animations féministes. Alors voilà, on peut pas, se déplacer. Eh ben, on vous souhaite un grand succès.
Hein, merci.
Et puis, merci à vous. On va terminer avec un petit bout de l'indicatif Elegy.
For good fun, I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. We up all night for good fun. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky.
Il était une fois un chouette bocage breton. Ensemble vivaient soudés gadous et papillons, et gambadaient tranquilles ouvriers agricoles, ratéchant lapinaux gosses qui vont à l'école. Jusque-là, calme plat, ça roulait, tout va bien. La nature expliquait dans une BD de Franquin. Lorsqu'un beau jour de pluie, il faisait même pas noir, un vieux dossier moisi sorti d'un fond de placard. Il était bien question de couler du béton, faire une piste à avion sur la gueule des tritons. Oulala, le thriller devient psychologique. Tragique, bah vous êtes pas content à Notre-Dame-des-Landes. Non merci, nous ici on a surtout les glandes. Du beau béton bien gris, des bons avions aussi. Des gros vroom vroom pour vous, le jackpot pour Marcy. Qu'est-ce donc que c'est méchant de scénario minable? Votre blabla, on s'en tape nous. On gardera nos arbres, on va tout raser, ça va être beau et brillant. Les bouses hop dehors, on chie un aéroport. Les Vinci, les héros n'ont pas lu La Fontaine. Ne jamais énerver Breton, repas salé. Un jour y a eu l'histoire de la très grande manif. Des gens sont restés là et ont été actifs. On s'appelle tous Camille et il n'est point question de laisser tomber car la flicaille nous colle des nions. Barricade, des bagarres, bouillant, bouillant, c'est chaud. En voyant dans leur tronche pelle pioche artichaut. Je vous laisse deviner ce qui devait se passer. Qui veut piller la terre, ramasse des énervés. Cabanes, yourtes et tentes se sont multipliées. Et des potagers bio se sont mis à pousser. Les poireaux de la contrée énonçaient pas des craques. Dans leurs cheveux un coup de vent du Larzac. Les poireaux de la contrée énonçaient pas des craques. On sentit dans leurs cheveux un coup de vent du Larzac. Une fois, un chouette bocage breton. Ensemble vivaient sous des gadous et papillons, et gambadaient tranquilles ouvriers agricoles, ratéchant rapinaux gosses qui vont à l'école. Jusque-là, calme plat, ça roulait, tout va bien. La nature expliquée dans une BD de Franquin.
Voilà, on vient d'écouter Les Meufs, un chouette bocage breton pour accueillir Jean-Philippe Martin, auteur de Paysanne, histoire de la cause des femmes dans le monde agricole, des années 1960 à nos jours, aux éditions de l'Atelier. Et ça vient juste de sortir, je crois, Jean-Philippe.
Oui, ça date du 10 janvier.
Voilà, donc un livre, moi que j'ai bien aimé parce que j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Voilà, on est à Paris, alors on est un peu loin des fois de certaines réalités, même si quand on va en vacances, on voit quelque chose. Et puis surtout sur nos écrans de télévision, avec toutes les mobilisations qu'il peut y avoir, on sait bien Et ce qu'on voit aussi dans nos assiettes, on sait bien que voilà, tout ça, ça se tient. Alors, on est en plein dans le salon de l'agriculture. Tu en reviens là ?
Non, non. Je n'en reviens pas.
En tout cas, dans les revendications, qu'est-ce qu'on voit sur, pour l'ensemble du monde agricole ? La baisse des revenus, la hausse des charges, la concurrence déloyale permise par les accords de libre-échange, l'empilement des normes liées à une réglementation très complexe, trop complexe sûrement, une fiscalité, et puis certains aspects de la réglementation européenne en matière d'agriculture et au contrôle de l'administration française, qui ne sont pas toujours en accord. Et donc, les revendications sont très nombreuses. Et je crois que ce qui est important aussi de rappeler, que tout ça, ça impacte sur la qualité de la production agricole, que ce soit les fruits, les légumes, le vin, la viande, voilà, toute la production. Mais c'est aussi ce que nous mangeons, nous, alors où qu'on soit en France et ailleurs, c'est ce que nous mangeons aussi. Et le livre parle de tout cela, mais avec un focus sur les femmes. Et c'est ça qu'on va découvrir avec toi. Voilà. Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Ah oui, alors je vais me présenter. Donc Jean-Philippe Martin, bon, j'enseigne en histoire et j'ai commencé à travailler il y a déjà une vingtaine d'années sur ce qu'allait devenir la Confédération paysanne. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, le projet d'aéroport date d'il y a plus de 50 ans. Et on trouve au Centre d'histoire du travail de Nantes où sont les archives des anciens paysans-travailleurs, un des courants qui allait donner naissance plus tard à la Confédération paysanne, on trouve des photos d'agriculteurs qui, justement, badigeonnent, me semble-t-il, ou tournent d'un poteau indiquant Notre-Dame-des-Landes. Enfin, voilà. Et donc, il faut rappeler que j'ai hélas mangé son nom, ce sont des gens proches des paysans-travailleurs qui ont été entre autres, à l'initiative de la lutte de Notre-Dame-des-Landes qu'évoque la chanson que vous avez passée tout à l'heure, que tu as passée tout à l'heure. Voilà. Hein. Et donc, il y a toujours des responsables, des militants et des militantes, là je ne connais pas assez, hein, de la Confédération paysanne qui sont actifs et qui ont été actifs au moment de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, comme dans celle du Larzac plus tard, mais ça c'est autre chose. Là. Ouais. Voilà.
Mais tu as déjà, avant d'écrire ce livre sur les paysannes, tu avais déjà travaillé sur la question en fait syndicale.
Oui, 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 en fait. En monde paysan. Oui, oui, je l'ai pas évoqué, mais effectivement, mon travail a commencé par un travail sur ce qui avait donné la Confédération paysanne, hein, ce qu'on appelle dans le jargon la nouvelle gauche paysanne, c'est-à-dire des courants qui dans les années 60-70, un peu avant mai-juin 68, un peu après mai-juin 68, conteste la domination de la FNSEA et du CNJA, c'est-à-dire Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, Centre National des Jeunes Agriculteurs, qui trouve trop favorable aux grands, trop favorable au gouvernement de droite, et pas assez actif dans la défense des revendications des petits et moyens agriculteurs ou paysans.
Et alors, tu enseignes l'histoire de quoi exactement ?
Alors non, moi j'étais en lycée, d'accord ? Donc j'ai travaillé sur la Confédération paysanne, ça a donné un livre qui s'appelait « Histoire de la nouvelle gauche paysanne », hein, à la découverte en 2005. Après, j'ai travaillé plus, bon, qu'une histoire syndicale, hein, on voit comment les courants se sont détachés, quels sont les militants, etc., les militantes aussi, un peu, qui ont participé à ces grandes luttes paysannes des années 70, hein, je pense à Bernard Lambert, hein, oui, et à sa femme, Marie-Paul Lambert, et à d'autres encore. Après, j'ai fait un livre qui est plus mouvementiste, on va dire, en 2017, qui s'appelle « Des mai 68 dans les campagnes françaises ». Et en fait, c'est en travaillant sur ce livre que j'ai commencé à réfléchir à la question des femmes dans le syndicalisme agricole et en particulier dans le courant de la gauche paysanne. Hein, voilà. Alors après hésitation, j'ai présenté ça d'une certaine manière et in fine, j'étais pas très content du résultat parce que j'avais voulu suivre un ordre chronologique. Et en fait, ça permettait pas, me semblait-il, de voir toute la place que prenaient les femmes dans ce mouvement-là et quelle était la singularité de leur combat, au pluriel, leur combat. Mmh. Entre-temps, j'ai fait un petit truc qui s'appelle des paysans écologistes, politique agricole, environnement et société. C'est... J'entoure la Confédération paysanne, en fait, j'encercle comme les Indiens la Confédération paysanne. Et donc, c'était un peu les courants qui essayaient de plaider, qui pratiquaient une agriculture différente. Puisque tu as parlé tout à l'heure de la qualité de l'alimentation, soit pour, par rapport aux consommateurs, soit pour échapper aux pesticides eux-mêmes, du point de vue de la santé, soit pour être autonome, etc., etc., pour plein de raisons. Donc, et. Après avoir fait ce livre qui est sorti en 2023, donc j'avais accumulé du matériau, des contacts, et donc j'ai décidé d'utiliser ces matériaux, ces contacts, c'est un peu peut-être brut de décoffrage comme expression, matériau, contact, etc. Bon, enfin,
des données, on va dire,
historiques, voilà. Et donc, je me suis lancé, parce que finalement, c'est assez curieux. Autant en sociologie, il y avait eu des travaux qui ont été faits dès les années 80 par quelqu'un qui s'appelle Rosemary Lagrave, mais qui n'ont pas été renouvelés trop, un petit peu, mais pas de grands ouvrages. Mais autant en sciences politiques, il y a Clémentine Comer qui a fait une thèse sur les femmes, etc. Mais en histoire, c'est assez amusant. C'est des hommes qui avaient posé des jalons plutôt. Il y a eu des premiers jalons par deux femmes, deux historiennes qui avaient fait un article, peut-on faire une histoire des femmes, etc., dans les campagnes. Et il y avait eu quelqu'un qui avait travaillé sur la Confédération paysanne de Vendée, qui avait fait un long chapitre sur les femmes. Et c'est un peu à partir de ça que ça m'a questionné aussi, il faut bien le dire, on bâtit sur les apports des autres. Donc c'était plutôt, et il y a quand même Jean-Louis Escudier qui a fait un beau livre qui est un peu ignoré, qui s'appelle Les femmes et la vigne. C'est le fruit d'années de travail et qui est très 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 intéressant. Je dis ça d'autant plus que j'habite Montpellier, que donc la vigne, je connais bien tout ce qui entoure les villes. Montpellier, c'est beaucoup de vignes. Voilà. Et donc je me suis lancé là avec quelques axes, quelques fils rouges, comme on dit. Le premier fil rouge, il était volontaire, parce qu'il y en a qui ne sont pas volontaires, bien sûr. Le premier fil rouge qui était volontaire, c'est de donner la parole partir de la parole des femmes, utiliser, c'est peut-être maladroit comme expression, mais donner la parole des femmes, retranscrire la parole des femmes. Et alors, est-ce qu'il y avait des archives? Parce que, évidemment, est-ce qu'il y a des documents? Et en fait, il y a des livres, il y a un certain nombre de livres de femmes qui sont des agricultrices qui ont écrit soit après, par exemple, Marie-Thérèse, ça me reviendra tout à l'heure, de l'Aveyron, mais ça, elle l'a écrit après, à la fin de sa vie. Quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie Crowley, qui l'a écrit alors qu'elle est en position de diriger un syndicat départemental. Il y a aussi des études. Le début des années 60 est friand d'études sur on disait pas féminisme, on disait émancipation des femmes, etc. Il y a plusieurs études. La paysanne aujourd'hui, ça date de 63 ou 64, qui interroge. Ménie Grégoire, qui a travaillé pour le Centre national des jeunes.
Alors ça, j'ai découvert.
Moi aussi.
que Ménie Grégoire s'était intéressée aux femmes paysannes.
Tout à fait.
Alors là, les bras m'en tombaient quand j'ai vu ça.
C'est avant qu'elle ait une carrière de journaliste radiophonique. Elle a travaillé pour le Centre National Jeunes Agriculteurs. Elle a écrit des choses. Et il y a une jeune femme qui fait justement un travail de master qui devrait paraître bientôt sur Ménie Grégoire et la paysannerie. Bon, je ne sais pas trop. Mais bon, ça devrait paraître. Moi, j'ai utilisé des articles et des pour le CNJA, des écrits de Ménie Grégoire. Mais bon, oui, c'était amusant. Donc, on trouve un certain nombre de données. L'ancienne ORTF avait, au moment de la grande mutation de l'agriculture au début des années 60, ils interrogent surtout les hommes, mais aussi les femmes de temps en temps. Puis après, dans les années 70, il y a des films militants. La grève du lait de 72, c'est des militants maoïstes proches de la gauche prolétarienne. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, peut-être à l'animatrice, mais chez nos auditrices et nos auditeurs. Enfin, des militants qui vont questionner les paysans et les paysannes qui leur donnent un peu plus la parole. Et parmi ce petit groupe, il y a des femmes qui vont faire un montage diapositif comme on faisait dans les années 70. Mmh. Ça se fait plus trop maintenant, évidemment. On fait des PowerPoint, mais bon, voilà. Donc, on trouve pas mal de données dans le syndicat, le CNJA, qui a des mauvais côtés peut-être, hein, mais qui, curieusement, il a mis très tôt en place une commission femmes, non mixte, que les femmes ont investi, auxquelles elles ont participé. Et Michel de Baptiste, qui est le dirigeant charismatique vers 63-64 de la modernisation agricole, des jeunes agriculteurs, puis de la FNSEA plus tard, avant de finir secrétaire d'État à l'industrie agroalimentaire sous Giscard. Donc, il publie un livre qui s'appelle « La révolution silencieuse » et il fait remarquer qu'il y a plus de femmes à la direction du CNJA qu'à la direction de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Ce qui est assez amusant, quand même. Voilà. Moi, je vous cède la parole. Donc, le premier fil, c'était celui-là. Ouais. Utiliser des données, des textes, des écrits, des interviews, etc., de femmes.
Et puis, vous avez vous-même interviewé d'autres femmes.
Ah oui,
en plus. Il y a plusieurs matériaux.
J'avais oublié.
Bon, en tant qu'historien, vous avez utilisé des traces écrites, ça, c'est normal.
Oui.
Mais vous êtes aussi allé chercher vous êtes allé à la rencontre de femmes.
Voilà, alors. Comme j'avais travaillé sur la Confédération paysanne, j'avais pu faire la liste un peu des femmes qui avaient été dans ce qu'on appelle le comité national et plus étroit encore, c'est-à-dire la direction, on va dire, qui doit prendre les décisions politiques, entre guillemets, hein, et le secrétariat national, c'est-à-dire les 3, 5 ou 7 personnes qui font tourner la boutique et qui sont censées faire appliquer la ligne décidée, hein, ou les décisions du comité national. Mais vous savez bien que dans ces secrétariats nationaux, il y a souvent des décisions qui sont prises parfois dans l'urgence, etc., hein, qui font qu'ils ont un rôle peut-être plus important, hein, que cela. Et donc, j'avais repéré un certain nombre de noms de militantes, de responsables, etc. Et donc, je me suis adressé à pas mal de ces responsables. D'abord, j'ai compté.
Je pense qu'il y en a une trentaine.
Oui, il doit y avoir une trentaine d'entretiens. 20-30 entretiens,
Et c'est intéressant parce que ça donne vraiment la parole actuelle.
Oui, parce que actuelle est un peu passée aussi, parce qu'un certain nombre d'entre elles sont retraitées.
Oui, mais c'est actuellement qu'elles pensent à ce qu'elles vivaient avant.
Ah oui, tout à fait. Elles reviennent, elles parlent de leur début. C'est pas parce qu'elles sont devenues ensuite secrétaires nationales de la Confédération paysanne qu'elles n'ont pas été confrontées, comme beaucoup de femmes, aux mêmes soucis, aux mêmes limites, aux mêmes difficultés que la plupart des femmes, ne serait-ce que la conduite de la sacro-sainte machine tracteur.
Oui. Alors, que ce soit la préfacière Fanny Gallo ou vous-même, vous dites qu'elles sont doublement dominées. Hein? Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le féminisme. Hein? On est dominé par le patriarcat, hein? Et puis on est dominé dans l'emploi d'une autre façon que les hommes.
Oui.
Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre cet aspect-là ?
Oui, je reprends là, hein, c'est pas moi qui ai inventé l'expression doublement dominée, je reprends une expression qui est utilisée par Rosemary Lagrave dans des ouvrages anciens, mais aussi dans des interviews qu'elle a données, je crois, pour Travail, Genre et Société, me semble-t-il, hein, de mémoire, je suis pas sûr.
Donc ça, c'est les travaux du MAJ, marché de l'emploi et genre.
Ouais. Donc, ce qu'elle explique, c'est que les agricultrices sont dominées à la fois parce qu'elles sont agricultrices, c'est-à-dire une classe subalterne, mal considérée, souvent dévalorisée, mal vue, et dominées en tant que femmes dans le domaine agricole, parce que vous parliez tout à l'heure du salon de l'agriculture, des événements et des manifestations, des événements, des manifestations. Mais en fait, est-ce qu'on a vu beaucoup de femmes interrogées lors de ces manifestations, lors de ces mobilisations et au moment du salon de l'agriculture? On a, là je pense qu'il y a, qui a aussi une responsabilité des médias et de l'opinion publique. C'est-à-dire que dans nos têtes, très souvent, l'agriculteur est un mâle, et pas, alors qu'un quart des chefs d'exploitation sont des femmes. Hein, et que c'est à peu près 30% des 300 000 salariés agricoles qui sont des femmes. Donc, on a quand même cette représentation, c'est un homme qui conduit le tracteur et qui dirige l'exploitation agricole. Et je pense que les syndicats essaient de lutter, hein, y compris ceux qui me semblent moins progressistes, dirais-je. Ils essaient de lutter contre ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des représentations qui sont plus largement partagées par l'opinion publique et les médias.
Mmh. Alors, c'est sûr. Du coup, on va écouter une interview d'Elisabeth Mpofu dans le Forum social mondial qui s'est tenu à Tunis en 2015 et dans le cadre de Via Campesina.
Challenges in most of the countries where the women are not really considered to be people who are able to work, who can also benefit from the land. But we know the rest of the work on the land is being done by women, but they are not being given that opportunity to enjoy what they are producing because of this patriarchal system. Men, they believe they are the people who should control everything. Viva Campesina, viva! Viva women, viva! Viva women, viva! It is my great honor to be here in Tunisia to meet with all people around from the world. And today in this room, we are going to share more on the challenges that women are facing around the world. Big business people, business-minded people are trying to grab our own natural resources.
Voilà, on vient d'écouter Elisabeth Mpofu, c'est une représentante du Zimbabwe, hein, dans le cadre de ce forum social mondial qui s'est tenu à Tunis en 2015. J'ai essayé de donner la parole à des femmes à chaque fois. Bien sûr que dans ce forum, il y avait beaucoup de gens et beaucoup d'hommes, mais il y avait aussi des femmes.
Si tu me le permets,
oui.
je voudrais dire une chose là-dessus, c'est que nous sommes des Européens et nous avons tendance à penser que nous apportons la lumière dans les pays en voie de développement et en particulier les idées les plus progressistes. Et or, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu circulation transnationale, comme disent les sciences, les politistes, des idées contestataires et justement de l'action contre les discriminations subies par les femmes. Or, la parité dans l'organisation syndicale, pour moi, c'est le deuxième fil, c'est je dirais, quelle action dans l'agriculture et dans le mouvement syndical, les femmes. La parité dans le mouvement syndical contestataire, auquel est liée la Confédération paysanne, elle s'est imposée sur le plan international avant que les syndicalistes françaises arrivent à l'imposer à la Confédération paysanne. Mmh. Il y a eu, c'est très intéressant de le voir, quoi. Il y a vraiment circulation des thèmes, des moyens, des volontés d'agir, de l'agenda, etc., des idées. Et on voit que c'est pas dans un seul sens. C'est-à-dire, ça vient pas de l'Occident, etc. Il y a eu vraiment des Canadiennes, mais aussi des Africaines, des Indiennes, beaucoup de Latino-Américaines qui ont fait avancer ce débat, mais je...
Ouais. Et dans la marche mondiale des femmes, par exemple, qui existe, et cette année, il y aura encore une grosse marche mondiale des femmes, on voit bien que ça circule, ces idées-là. Et par exemple, la suffisance alimentaire est un... est un domaine qui s'est développé alors qu'au départ on était pour la paix, pour voilà, contre la guerre, pour la paix, contre la pauvreté, et petit à petit, parce que ce sont les femmes africaines, les femmes sud-américaines aussi qui ont pris la parole, et souvent des paysannes, hein, c'est comme ça que aussi la marche mondiale a pris en compte d'autres dimensions. Oui. Alors, votre livre, c'est 10 chapitres. On ne va pas les évoquer tous, hein, mais c'est pour voir un peu comment ça s'articule. Donc, on démarre avec des femmes invisibles et on va parler que des femmes. Du coup, elles seront un peu plus visibles, avec une lente émergence de la cause des femmes dans le syndicalisme agricole. Là, on est dans les années 60. Dans les années 70, participation des femmes aux luttes paysannes. Les années 80 et 90, on a plusieurs chapitres, on a deux chapitres là, sur des conquêtes de droits sociaux. Hein. On va y revenir sur la différence entre les droits sociaux, politiques, etc. Hein. Et puis arrive un renouveau du combat pour la cause des femmes depuis le début du 21e siècle. Et vous terminez par être paysanne et militer à la Confédération paysanne. Voilà. Donc on voit une lente émergence d'une conscience, on va dire, d'une conscience des femmes que vous n'appelez pas féministes, sauf dans la dernière période.
Hein. Qui ne s'appelle pas forcément féministe. C'est peut-être ce qui m'a surpris, moi, d'ailleurs, hein, commençant mon étude et les premiers entretiens. Donc, je contacte des femmes qui ont été à la direction de la Confédération paysanne et qui avaient des responsabilités même internationales, hein, mais au moins deux ou trois. Et il y en a une qui ne se disait pas féministe, en fait. Et donc, ça a été une façon de... Il a fallu que je me creuse un peu, et c'est... Rosemary Lagrave qui me dit de m'intéresser à un travail de Laure Bérény sur c'est une thèse sur la parité, hein, etc., qui utilise l'idée de cause des femmes.
Oui. Hein, c'est-à-dire et c'est le titre de votre livre,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà.
Hein.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas le mot féminisme, mais il y a histoire de la cause des femmes.
Voilà. C'est parce qu'effectivement, il y a des femmes qui ne se disent pas féministes et qui pourtant font avancer la cause des femmes, qui ne se disent pas féministes pour plein de raisons. Peut-être elles le deviennent peu à peu. Voilà. Et puis, il y a de nouvelles générations qui, elles, maintenant, la Confédération paysanne a tendance à se dire féministe. Hein, mais même dans l'après-68, pas toutes les femmes ne se disent pas féministes. Même si certaines le sont. Hein, certaines le disent, je l'ai été depuis longtemps, etc. Moi, il y en a une qui m'a raconté une scène qui ressemblait étrangement au film sur l'avortement, avec cette actrice... qui est sorti il y a 2-3 ans. Bon, ça me reviendra plus tard.
Annie Colère.
Voilà. Elle me dit, on se réunissait là, et en face, il y avait les RG tout le temps, souvent. Voilà. Et on voit ça dans le film, effectivement, Annie Colère.
Oui. Alors, du coup, on voit bien que le mot féministe, vous y faites attention. Hein, vous le mettez plutôt dans la dernière partie de cette évolution. Et est-ce qu'on peut reprendre les principales revendications des femmes? Parce que les revendications que j'ai évoquées tout à l'heure au tout début, elles concernent tout le monde. Mais les femmes, elles n'avaient pas de congé maternité identique à celle des salariés, il y a l'histoire du patrimoine, enfin, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui font que au travers du syndicalisme, elles ont non seulement lutté pour avoir de meilleures conditions de travail, hein, mais elles ont lutté pour leurs droits propres aussi. On peut reprendre les revendications ?
Oui, alors ça va être peut-être difficile de faire une liste. Bon, mais oui, les revendications, c'est lié à l'absence de droits sociaux en particulier et de droits économiques hein, quand même, puisque le courrier n'arrivait de, et de reconnaissance dans leur travail, ce qu'elles appellent le statut. Hein. Le courrier, ce que disent plusieurs d'entre elles, hein, pas qu'à moi, elles le disent dans les commissions du Sénat, etc. Le courrier qui arrive à l'exploitation, même si elle travaille dans l'exploitation, le courrier est adressé au mari. Hein. S'il le veut, le mari décide seul. Ah bon, c'est pas forcément le cas, hein, c'est pas grave, mais voilà, il y a quand même ça. Pour la bonne marge de l'exploitation. Après, il y a tout l'aspect droits sociaux. Ça veut dire quoi, droits sociaux ? Ça veut dire qu'elles n'ont pas de congé maladie, elles n'ont pas les droits à la retraite, elles ont droit que à la retraite, une pension de réversion. Enfin, elles avaient, hein, voilà, d'accord. Elles n'avaient pas droit, il n'y avait pas de congé maternité, vous voyez. Donc, une absence de rien en cas d'accident du travail, hein, ce qui peut arriver, etc. Donc, une absence de droits sociaux, un travail qui était quand même exténuant, il faut le dire, exténuant, hein, puisque on retrouve ça dans plusieurs documents, hein, puisqu'elles ont essayé de faire des enquêtes, etc. Et on retrouve ça, c'est première levée, dernière couchée. Hein, elles doivent à la fois tirer le fil, si vous voulez, de l'exploitation, ce qu'on appelle ça des ateliers qu'elles ont à faire, mettons la traite, la volaille, le lapin si elles ont des lapins, le jardin, puis peut-être autre chose.
Éventuellement le marché aussi, aller vendre.
Oui, effectivement. Le fil, elles doivent tenir aussi la maison. Hein, puisqu'évidemment, le plus souvent, c'est elles qui font la manger. Hein. Et elles doivent tenir aussi, s'occuper des enfants. Donc voilà, ces trois. Et c'est tout ça sans avoir sans bénéficier de droits sociaux, ce qui est quand même assez extraordinaire comme situation. Et donc, elles vont à la fois demander à être reconnues, que leur travail soit reconnu, en demandant un statut. Alors, il va y avoir de tout un tas d'étapes, hein, etc. Hein, mais ça va commencer à s'amorcer dans les années 80, mais petitement. Hein, possibilité de s'associer entre époux, 1985. Hein, voilà.
Très tardif.
Oui, oui.
Très, très tardif.
Dans une EARL, entreprise agricole à responsabilité limitée. Hein. Ouais. Et le statut de chef d'exploitation, j'ai ma petite fiche là, 2006, vous voyez.
Ouais.
Donc c'est vraiment très statut. Là, c'est vraiment plutôt l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect social. Et à un moment donné, elles vont revendiquer un statut. Et dans les années 80, elles vont peut-être plus, comment dirais-je, axer sur le congé maternité. En se disant, si on gagne sur quelque chose, ce sera une grande avancée et ça permettra peut-être après d'autres avancées. Et donc, 1977, elles obtiennent 2 semaines de congé maternité. Donc, alors bon, j'expliquerai peut-être qu'est-ce que ça veut dire un congé maternité ? Ça veut dire que si elles le désirent, elles peuvent se faire remplacer.
Et donc, il faut un salaire de remplacement.
Voilà. Alors, la mutualité sociale agricole rembourse 90% du salaire du salarié. Pas entièrement, c'est quand même assez étonnant, comme s'il fallait quand même les punir, quoi. On leur octroie des congés maternité, mais on les punit un peu quand même. Et il fallait les nourrir. Plus ou moins les loger, mais bon, ça tombe en désuétude quand même. Hein. Mais vous voyez, et ce n'est qu'en 2008, vous voyez, 2008, ça fait très peu de temps, qu'elles obtiennent autant de semaines de congés payés que les salariés, c'est-à-dire 16 semaines. Alors aujourd'hui, on en est à peu près, il y a 2/3 des femmes, des agricultrices qui travaillent dans l'exploitation de leur mari, qui prennent ces congés maternité. Il peut y avoir d'autres systèmes, etc. Vous voyez, donc c'est une lutte pour être reconnue économiquement, si j'ose dire, hein, et une lutte pour être reconnue socialement. Et il y a toute la question des représentations du milieu. Là, c'est autre chose. Mmh. C'est beaucoup plus long.
Et puis, le patrimoine aussi. Elles vivaient... Avant, elles vivaient la plupart du temps chez les beaux-parents. Hein?
Oui, alors...
Et donc, avec le rythme des beaux-parents. Mais le patrimoine, comment accéder à un patrimoine ? Est-ce qu'on peut demander autant d'argent pour s'installer, etc. C'est pas égalité non plus.
Alors, vous savez que... en fait, quand quand quelqu'un part à la retraite et que donc il y a la question, ou décède plutôt, qu'il y a la question de l'héritage qui se pose, hein, l'exploitation agricole en général, dans l'immense majorité des cas, jusqu'à tout récemment, est reprise par un garçon. Donc s'il y a un garçon et deux filles, c'est le garçon qui reprenait en général l'exploitation agricole. Et les filles, soit il y avait des soultes payées, soit, moi je connais des cas où le chèque a été déchiré à la sortie du notaire, en disant non, sinon ça te ruinerait, etc. etc. C'est pas forcément le cas partout, mais bon, j'ai connu. Donc, c'était les hommes qui héritaient de l'exploitation agricole, voilà. Et donc, quand une femme épousait un agriculteur, qu'elle voulait être agricultrice, dans beaucoup de régions, pas dans toutes les régions, mais dans beaucoup de régions, et c'était vrai jusqu'aux années 80, et c'est parfois encore un peu vrai, mais jusqu'aux années 80, j'ai rencontré le cas, hein, en Aveyron, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans l'Ouest, elle le raconte d'ailleurs, Anne-Marie Crollet, hein, eh bien, d'abord, elle va sur l'exploitation du mari, qui lui-même reprend l'exploitation de ses parents et qui est parfois encore soumis à la domination, si vous voulez, d'une certaine manière, de son père et de sa mère. Et elle se retrouve dans la maison de la belle-famille, sur l'exploitation de la belle-famille, à obéir aux beaux-parents. C'était vrai très fortement dans les années 60. Et ça va être un des combats, de ces jeunes agricultrices qui était, et l'histoire n'est pas simple puisque nous sommes dans une radio anarchiste, hélas il y avait un dieu pour certaines d'entre elles, une partie des femmes qui vont commencer à remuer le cocotier, l'expression n'est pas très jolie, mais à contester ces choses-là, sont des femmes issues de la jeunesse agricole catholique féminine. Qui joue un rôle important. Bon, je suis pas là pour défendre le catholicisme, mais ça a existé. Et donc ça a joué un rôle important pour ces femmes. Alors au départ, c'est sûr, elles vont discuter de choses plutôt faire la cuisine, comment être une bonne ménagère, etc., etc., dans la JACF.
Et puis tous les problèmes d'avortement et de contraception aussi.
Parfois, c'est même certaines disent que des prêtres les ont aidés à... Bon,
bien
mais
sûr.
Voilà. Et... Puis ça va être aussi, ça va petit à petit porter sur la question de, comment dirais-je, de la tenue de l'exploitation et de la place dans l'exploitation et dans le foyer aussi, parce qu'on n'en a pas parlé aussi. Voilà, donc ça joue un rôle important et ces militantes formées par la JACF, puisque c'était en non-mixité, mais imposées par l'Église, hein, c'était des groupes femmes catholiques, si j'ose dire, rejoindre le Centre National des Jeunes Agriculteurs dans les années 60, pour simplifier, puis ensuite la FNSEA, et vont imposer à nouveau des... C'est pas seulement elles qui vont l'imposer, c'est aussi le choix des maris qui veulent...
Puis la société aussi qui évolue.
Oui, tout à fait. Et donc il va y avoir des places réservées aux femmes dans le syndicalisme.
Oui.
Jeunes, agricoles.
Et c'est ça qui va changer. Alors, du coup... Dans le syndicalisme, c'est aussi l'occasion de prendre conscience encore plus. Elles viennent au syndicalisme parce qu'on leur laisse aussi quelques places, mais des places qu'elles gagnent aussi. Hein.
Oui, c'est les deux à la fois. Voilà. Vous avez raison.
Mais quand il n'y en a qu'une, et vous le dites à un moment donné, dans un secrétariat où il y a 7 personnes, s'il y a une femme, c'est difficile. Dès qu'il y en a deux, ça commence à pouvoir bouger un peu plus.
Oui, ça, vous faites allusion. Ça, c'est une responsable de la Confédération paysanne qui devait être dans les années 90, de Normandie, qui est pourtant une féministe, qui dit oui, quand même, à deux, c'était plus facile. Quoi. C'est pas que les gars soient forcément hostiles, mais c'était plus facile. Voilà. Et parce que, quand même, les secrétariats nationaux... j'imagine que vous êtes une radio militante. Vous savez, dans les cercles militants, c'est parfois un peu tendu. Et bon, les désaccords peuvent prendre des formes un peu vives. Donc, c'était pas toujours facile de prendre la parole.
Ouais. Dans les revendications, il y en avait une autre qu'on n'a pas évoquée encore. C'était la formation aussi. Oui. Et ça, c'est aussi important pour légitimer ensuite qu'on devienne chef d'exploitation.
Hein. Oui, très
souvent. Alors, le mot chef d'exploitation, je le trouve génial. Hein. Il y a le mot chef et exploitation hein, en même temps.
Oui, alors effectivement, les femmes, elles sont encore moins formées, mais elles commencent à l'être un peu plus. Et d'ailleurs, les groupes qui anticipent un peu les plus avant-gardistes dans les années 70, c'est un groupe femmes de Vendée, de paysans travailleurs, puis travailleurs paysans. Hein. Et les groupes aujourd'hui, eh bien, ces groupes femmes en non-mixité choisies, là, hein, vont s'intéresser, non pas seulement partager leurs expériences, mais aussi se dire comment on fait pour réparer la voiture, conduire un tracteur, voilà. Elles se sentent moins, voilà, aborder des questions techniques, si vous voulez, qui se posent aux agriculteurs, aux agricultrices en l'occurrence. Mmh. Et aujourd'hui, c'est répandu dans beaucoup de groupes, alors que dans les années 70, c'était quand même quelques petits cercles. Là, il y a tout un mouvement dans ce qu'on appelle les CIVAM, Centres d'intérêt pour la valorisation, je ne sais plus, du milieu agricole, on va dire, mais ce n'est pas ça hein, le sens. Hein. Il y a dans beaucoup de CIVAM, dans l'Ouest, en Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine, et dans d'autres départements, il y a des groupes femmes en non-mixité choisie qui abordent ces questions de technique, de formation, et de faire une formation entre elles, dans la mesure où elles se sentent non jugées. Donc il y a une floraison, une effervescence militante, d'une certaine manière, qui n'est pas syndicale forcément, hein, mais qui est de se retrouver pour partager les expériences, trouver des solutions, etc. Et aborder parfois des questions intimes.
Ouais. Et donc, de fait, le syndicalisme après les JACF, le syndicalisme a été un moteur pour l'évolution des femmes.
Ah oui, tout à fait. Oui, ah, oui.
Et c'est ce qu'on ressent dans le livre. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que tu ne parles que des que des femmes qui sont dans les syndicats, puisque c'est cet aspect-là qui t'intéressait, mais on voit aussi qu'elles ne sont pas hors sol, hein. Bien sûr qu'elles entendent ce qui se passe à la radio ou à la télévision, mais le syndicalisme leur a permis de progresser encore dans leurs revendications.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, avec quand même, je nuancerai, oui, je suis plutôt tout à fait d'accord même, mais je nuancerai parce que moi j'ai étudié le syndicalisme, donc je veux pas, il y a peut-être eu aussi d'autres lieux de formation technique, des centres par exemple, où il y a beaucoup de groupes qui ont essayé de voir une agriculture différente, alternative, on disait, agriculture alternative, plus autonome, plus économe, etc. etc. Ça peut aussi passer par ça, hein. C'est pas forcément la forme syndicale. Hein. Mais disons, la forme associative est un plus, effectivement.
Bah, c'est le collectif, quoi.
Voilà,
c'est la force du
collectif. Oui, tout à fait. Oui.
Alors là, on va écouter un extrait lors de la mobilisation européenne à Bruxelles. Et c'est une femme de la Confédération paysanne.
Alors, bonjour, paysanne, paysan, je parle au nom de la Confédération paysanne de France. Alors, vous savez qu'en France, on est mobilisé largement, comme nos collègues, nos camarades des autres pays, depuis 10 jours, de façon massive, la Confédération paysanne. Mais d'abord, les paysans sur le terrain, les agriculteurs, c'est un grand ras-le-bol. C'est une grande colère, une énorme colère, et se révèle aujourd'hui cette colère, cette difficulté face à l'avenir. C'est extrêmement profond, c'est sur tous les territoires, peu importe l'appartenance syndicale. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les paysans, on est au bout de décennies d'application d'une politique ultralibérale qui détruit l'agriculture, qui détruit le système alimentaire, qui détruit tout l'espoir, tout l'avenir des paysans en Europe et en France. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, et c'est pour ça que partout en Europe, partout, les paysans sont dans la rue avec leurs tracteurs, avec leurs drapeaux, avec cette énergie, cette détermination. En France, la Confédération paysanne, aujourd'hui, on bloque plusieurs 5-6 très grosses centrales d'achat de produits agricoles. C'est le lieu... Ces centrales d'achat, c'est le lieu où il y a une pression, où on nous vole notre travail. où nos prix, les prix qui nous sont proposés ne nous permettent pas de vivre, de continuer à être paysans dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'on s'adresse directement à ces lieux où il y a le vol du travail des paysans. En France, nos revendications, c'est d'exiger une interdiction de vente à perte. On a le droit, c'est le droit des agriculteurs, des paysans de vivre de notre travail, d'avoir des prix qui couvrent les coûts de production, qui couvrent la rémunération de notre travail, qui couvrent la protection sociale. Il en va de l'avenir de l'ensemble des paysans. Voilà pourquoi la Confédération paysanne, on est extrêmement déterminée, extrêmement mobilisée. Notre gouvernement fait des annonces vendredi, hier, il va en refaire tout à l'heure, peut-être de suite à midi, mais c'est sûr que ça ne sera pas suffisant. Donc on s'est extrêmement mobilisé pour exiger de la France une interdiction d'achat, de transactions en dessous des prix, il en va de notre avenir, d'exiger l'arrêt de la négociation définitivement de l'accord UE-Mercosur. C'est vraiment le symbole ultime de la destruction des peuples et des paysans. C'était une évidence pour nous, Confédération paysanne, alors qu'on est hyper mobilisés chez nous, d'être ici aujourd'hui, nombreux, aux côtés des collègues, devant le Parlement, à cette journée du Conseil, pour redire ça. Redire que les paysans français, on exige l'arrêt des accords de libre-échange. On exige un travail de l'Europe et de chacun de nos États pour obtenir des prix, du revenu, pour continuer à travailler. Pour redire aussi qu'on a besoin d'Europe. On a besoin d'une Europe qui protège, d'une Europe qui régule et d'une Europe qui a une ambition pour continuer à produire avec des normes communes, tous ensemble, se dire on a une ambition pour protéger l'environnement, pour protéger la santé, la nôtre de paysans, et celle des consommateurs. On veut une Europe protectrice, on en a besoin, et on veut arrêter d'être livré au libre-échange et à la destruction de nos outils de travail, de nos vies de paysannes, de nos vies de paysans, et donner un avenir à l'installation des jeunes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à tous.
Voilà, toujours à l'antenne de Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres, et toujours en compagnie de Jean-Philippe Martin pour son livre Paysanne, histoire de la cause des femmes dans le monde agricole. Alors Jean-Philippe, tu voulais faire quelques commentaires peut-être.
Oui, deux commentaires hein, sur cette intervention qui se déroule à Bruxelles, donc à l'hiver dernier. Hein. La Confédération paysanne a eu peu accès aux médias, quand même, et les femmes qui la dirigent ont eu peu accès aux médias à ce moment-là. Voilà, je voulais préciser quand même ces deux choses.
Oui, oui. Voilà, bon, en tout cas, moi j'essayais de trouver des femmes qui prenaient la parole, et là, je trouvais qu'elle rassemblait les revendications générales, mais qui ne sont pas les revendications des femmes particulièrement. Hein, dans cet extrait. Hein. Alors, est-ce qu'on peut donc revenir maintenant sur la Confédération paysanne?
Oui.
Hein, et voir comment elle évolue et là, on a des femmes qui sont bien présentes.
Oui, alors, oui, mais il a fallu qu'elles s'imposent. Hein. Si vous voulez, autant il y avait eu dans l'après-68, hein, il y a eu un groupe femmes actives dans ce qui était les paysans travailleurs pour travailleurs paysans. En 1987, quand se crée la Confédération paysanne, c'est un regroupement de plusieurs syndicats de gauche, on va dire, pour simplifier. Hein. Et là, il y a des enjeux jugés plus importants, et donc la commission femmes est mise et de fait supprimée hein, pendant quelques années. Et ce n'est que dans les années 1990 qu'elle est relancée. Ça prend du temps. C'est quelques militantes qui sont très dynamiques, très volontaires, mais qui font jonction, certaines plus anciennes qui étaient là dès l'après 68, qui font jonction avec des nouvelles militantes. Et donc, petit à petit, la commission femmes se stabilise. Et on en revient au début de notre conversation. Elle va commencer à demander à ce qu'il y ait plus de femmes dans les directions. Au début, il y a zéro femme dans le secrétariat national, puis après il y en a une, puis après deux, voilà, donc un sur sept, mettons, hein, voilà. Et donc elle va demander, la commission femmes va demander à ce qu'il y ait parité, sous l'influence de la parité qui s'était imposée dans la Via Campesina et du débat qu'il y avait en France hein, sur la parité en politique, etc. Hein, voilà. Et donc, une première fois, je dis qu'il a fallu du temps, puisque c'est en 99, c'est proposé dans une AG. Alors, autant la direction était plutôt d'accord, l'Assemblée Générale vote contre. Voilà. Il y a un débat assez vif, hein. J'en donne des extraits dans mon texte, avec certains qui disent que c'est des idées américaines, cette histoire de parité, que bon, voilà, hein, ça s'oppose à l'universalisme, etc., etc. Et finalement, en 2000, à l'AG suivante, alors ce qui est intéressant, pourquoi en 2000 à l'AG suivante ? Parce que nous sommes dans l'après-1995, hein, les grandes luttes de décembre 1995, après l'affaire du McDo de Millau de 99, donc la Confédération paysanne, elle a ses liens internationaux avec la Via Campesina, mais elle a aussi des liens importants avec les syndicats sud, avec ATAC, dont elle est membre fondatrice, hein, etc., etc. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Annick Coupé, qui a des responsabilités importantes à Sud, qui va faire tout un travail et donc participer à convaincre les militants de la Confédération paysanne. Et en 2000, la parité à l'intérieur des directions de la direction nationale, ils ne disent pas direction nationale, secrétariat national, pardon, est imposée. Alors, parité, étant entendu que les femmes sont à peu près 30% du... Voilà, hein, c'est à peu près un tiers. Hein. Et s'il n'y a pas de femmes, il n'y a personne de la région. Enfin bon, voilà. Donc, il y a tout intérêt à faire la parité. Ce qui est une avancée, mais certaines femmes du groupe femmes disent que malgré tout, parfois, elles entendent des remarques qui ne leur plaisent pas.
Voilà. Bah oui.
Lucille, toi, tu es là parce qu'il y a la parité, hein, semble-t-il. Hein. Mais enfin, c'est dit dans un sketch qui, visiblement, fait référence à des choses vécues. Bon, enfin, bon, voilà.
Et prendre des responsabilités syndicales quand on est déjà dans le monde agricole, qu'on a une vie de famille avec des enfants et les réunions ne sont pas localement, mais qu'il faut se déplacer, etc. C'est pas non plus très facile et tu donnes à certains moments le témoignage de femmes qui disent mon mari m'a beaucoup aidée, hein, alors, parce que sinon j'aurais pas pu tenir ce mandat syndical.
On peut dire deux choses, et bon, alors c'est vrai à la Confédération paysanne, mais dans les autres syndicats agricoles et dans le syndicalisme en général, c'est pas que moi hein, qui le dis. Il y a Rosemarie Lagrave et d'autres personnes qui ont travaillé sur les syndicalistes, sur les femmes syndiquées dans d'autres syndicats, hein, dans les employés, d'ouvriers. C'est qu'il y a des formes d'accommodement dans le couple là, hein, qui font que le mari soit il est considéré comme moins macho, ou il accepte que sa femme. D'abord, il faut qu'il accepte hein, que sa femme sorte. Représente une base sociale, un groupe social, hein, etc., qu'elle ait des postes de responsabilité. Donc, il y a une répartition. Souvent, le mari, mettons, va être plutôt... C'est souvent un couple de militants, mais lui va militer plus localement, par exemple, soit dans la coopérative, s'il est dans le Midi Viticole, ou dans la région de Bergerac, etc., ou bien dans les municipalités, ou bien dans les CUMA, c'est-à-dire les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc, vous voyez, il va avoir un engagement, mais différent, plus local, etc. Et la femme va s'investir plus. Alors, elles le font plus tardivement, parce que eh bien souvent elles attendent que les enfants soient un peu plus grands, hein, oui. Donc hein, c'est souvent il faut attendre que les enfants aient 14-15 ans, donc souvent elles ont 50 ans, hein, je me rappelle plus l'âge, voilà. Et celles qui le font très tôt, en fait, c'est simple, c'est qu'elles n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles n'ont pas d'enfants. Hein. Les deux ou trois que j'ai repérés, ou peut-être quatre, je ne sais plus, hein, qui le font beaucoup plus tôt. Mais il y en a même qui disent, une qui a pourtant avait une formation d'ingénieur agronome, qui était dans elle est issue d'une famille où il n'y avait que des filles. Donc, les parents les avaient bien poussées, hein, donc, etc. Mais elle n'a jamais fait le pas de devenir porte-parole. Elle aurait pu, peut-être, mais elle n'a pas osé le... Elle s'est dit, bon, il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi très compétent. Et elle a dit que, bon, voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, bon, voilà.
Et puis, il y a des solidarités aussi intrafamiliales avec les parents, les beaux-parents pour les enfants.
Oui, oui, tout à fait, voilà. Tout à fait.
Peut-être même d'autres agricultrices
aux
alentours.
Oui, tout à fait. Il y a ces liens, par exemple, dans les années 60, dans la Drôme, je cite le cas de femmes qui s'entraident. Quand le mari milite beaucoup, quoi, sur l'exploitation, elle s'entraide. Je crois qu'elle part un moment faire un stage national et c'est sa sœur qui prend les enfants. Bon, voilà. Mais il a fallu que quelqu'un la convainque, que sa sœur lui dise cela, que le mari accepte. Vous voyez, ça fait plus peut-être de conditions que pour un homme.
Et voilà. Ça fait une organisation qu'il faut penser longtemps à l'avance.
Oui, une organisation, d'autant plus que, bon, militer dans le milieu agricole, c'est compliqué. Alors, quand on est évidemment à 2 heures de Paris, ça va, mais quand on est en Lozère, dans les Pyrénées-Orientales ou du côté de Nice, là, dans le Mercantour, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais.
Donc,
chronophage.
On peut revenir sur le fait que les femmes, on peut les retrouver comme salariées, on peut les retrouver comme chefs d'exploitation et on peut les retrouver, le troisième niveau, c'est, j'ai oublié.
Il y en a qui n'ont pas de statut.
Et il y en a qui n'ont pas de statut, bien sûr.
Il y en a qui ont, qui sont peut-être... Ils ont peut-être encore le statut de conjoint collaboratif.
Voilà, conjoint collaboratif.
Mmh. Ouais.
Donc, des statuts différents. Mais quand elles ont un statut, ça veut dire que, au niveau des droits sociaux et des droits à la retraite, c'est engagé, en tout cas.
Oui, oui, oui. Alors, depuis 2006, pour le statut de chef d'exploitation. Et puis, il y a une autre catégorie de femmes. Les salariés agricoles, je ne les ai pas trop étudiés, mais vous avez une autre catégorie de femmes. Ce sont les femmes qui travaillent à l'extérieur.
Oui.
Mais qui donnent, comme on dit, un coup de main.
Et qui s'occupent de la basse-cour.
Voilà, qui donnent un coup de main quand il
jardin.
Le faut. Ou bien qui engagent, c'est-à-dire que leur salaire, une partie de leur salaire va peut-être servir pour faire vivre la famille ou parce que le mari à ce moment-là ou le compagnon ne rentre pas d'argent ou peut-être une partie va servir à acheter un matériel ou etc. Voilà. Ouais. Il y a aussi ça. Et j'ai oublié votre question, je suis désolé. Ou ta question.
Je disais qu'il y avait, il y avait trois niveaux, il y a même un quatrième niveau, c'est celui des femmes qui n'ont aucun statut.
Oui, tout à fait. Il y a encore quelques milliers de personnes qui n'ont pas de statut. Alors, mais ça, c'est une catastrophe absolue, parce que quand même, ça veut dire que si elles se séparent de leur compagnon et si la séparation se passe mal, elles se retrouvent avec rien.
Voilà, en cas de divorce.
Oui, tout à fait. Ou si elles sont, si elles sont pas mariées et qu'il y a zéro trace, même pas paxé, elles se retrouvent avec rien. Donc ça peut être une catastrophe intégrale. Et malgré le fait, malgré le fait que quand même les femmes aient le statut de chef d'exploitation depuis 2006, les retraites, aujourd'hui, des femmes sont inférieures de 200-300 euros, je crois, à celles des chefs d'exploitation. Hommes, voilà. Il y a un différentiel important. Et je crois, d'après ce que j'ai lu dans les documents de la MSA il n'y a pas longtemps, supérieur aux autres catégories professionnelles.
Alors, dans le monde salarié, c'est 40% de
40%.
Moins. 40% de moins. C'est Christiane Marty qui avait beaucoup travaillé ça au moment des mobilisations contre les lois retraite. Et c'est vrai que ça s'explique non seulement parce que les salaires au quotidien sont inférieurs, mais que ça se cumule sur toute la carrière aussi. Hein. Et ça, c'est Rachel Silvera qui explique très très bien, elle l'a fait pour la CGT, qui explique très très bien qu'il faut, bien sûr qu'on a par exemple 200 euros de moins sur ce mois-ci, mais comme ça va se cumuler pendant 40 ans, eh bien, on a une perte réelle de salaire qui va impacter forcément la retraite. Hein. Voilà. Alors, on dit 40% quand il n'y a pas de pension de réversion, enfin de choses qui atténuent un peu ces 40%.
Tant que Marie est vivant.
Voilà.
Ce qui n'est pas une raison quand même pour l'éliminer tout
voilà.
de suite.
On va terminer. Moi, ce que j'avais envie de donner comme conclusion, et après toi, tu en diras, tu diras la tienne, c'est que la réalité des paysannes à ce jour, c'est aussi des prés plus modestes, des surfaces cultivées plus petites. On l'a dit tout à l'heure, des milliers de femmes sans statut. Et puis, on a parlé, évidemment, des femmes divorcées qui peuvent se retrouver en grande difficulté. Donc, elles ont avancé sur leur statut, elles ont avancé sur leurs droits, mais il reste encore, comme d'ailleurs dans le monde salarié, hein, il reste encore à conquérir d'autres droits.
Il reste encore des choses à conquérir, tout à fait. Et pour avoir peut-être, malgré les temps réactionnaires que nous vivons, il y a quand même des femmes qui luttent pour le faire, hein, pour se faire. Donc voilà, hein, et elles jouent un rôle aussi significatif dans les changements de pratiques agricoles, soit vers le bio, soit vers une agriculture moins intensive sans être forcément bio. Hein, donc. Mais effectivement, il y a aussi des groupes femmes qui se développent pour conquérir de nouveaux droits.
Voilà. Eh ben merci Jean-Philippe. On a, je crois, bien donné envie de lire le livre, en tout cas. Jean-Philippe Martin, donc avec une préface de Fanny Gallo. Le titre, c'est « Paysanne, histoire de la cause des femmes dans le monde agricole des années 1960 à nos jours » aux éditions de l'Atelier. Et c'était sorti en janvier, donc c'est vraiment tout récent puisqu'on est en février. Ben merci.
Merci à vous.
Et on écoute pour terminer la chanson « Paysanne, paysan » de la Confédération paysanne.
Paysans, plus question de nous taire. Paysans, paysans, solidaires et vivants.
paysanne, paysan de la Confédération paysanne. Et on a terminé donc l'entretien avec Jean-Philippe Martin. On passe à la quatrième partie de l'émission, des infos, des communiqués, des rendez-vous. Mais on va surtout parler de l'appel national du 8 mars 2025, grève féministe avec les femmes du monde entier pour les droits des femmes, tout en grève féministe et en manifestation. Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire. Le 8 mars, journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Sans les femmes, tout s'arrête. Nous sommes déterminés à lutter, à faire entendre nos voix pour obtenir l'égalité. Alors, l'appel est très long. Je vais vous donner quelques aspects de cet appel. Solidaire avec les femmes du monde entier, afghanes, iraniennes, palestiniennes, soudanaises, kurdes, ukrainiennes, nous sommes solidaires de toutes celles et encore aujourd'hui de toutes celles qui encore aujourd'hui sont emmurées, exécutées, qui font face à des bombardements massifs, au génocide, à l'exode, sont victimes de viols de guerre, peinent à nourrir leur famille et elles-mêmes, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées aux conflits armés, aux régimes fascisants, réactionnaires, théocratiques et colonialistes. Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique aggravé par les politiques productivistes et capitalistes. Le deuxième aspect, c'est non à l'extrême droite. Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les LGBTQIA plus phobie, le validisme, se banalisent et sont aux portes du pouvoir, voire y accèdent partout dans le monde, à l'image de Trump aux États-Unis. Les femmes, les minorités de genre, les migrants en sont les premières cibles. En France, nous dénonçons les propos racistes du ministre de l'Intérieur. Nous exigeons la régularisation et l'ouverture des guichets pour que tous et toutes les immigrés puissent rester ici. Nous refusons l'abrogation du droit du sol à Mayotte et la remise en cause de l'aide médicale d'État. Nous voulons vivre et pas survivre. Les différents gouvernements ne font rien contre les inégalités salariales et les bas salaires qui touchent particulièrement les femmes. 62% des personnes payées au SMIC sont des femmes. Quant aux mères isolées touchant le RSA, elles sont confrontées à de multiples difficultés pour trouver un emploi, problèmes de garde d'enfants, de transport. Particulièrement touchées par la crise du logement cher, les femmes sont majoritaires parmi les personnes expulsables et sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue. Les femmes sont majoritaires parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bon, je vais passer pour l'égalité salariale, du temps pour vivre, des salaires et une retraite décente. Le gouvernement n'a aucune volonté de réduire les inégalités salariales. De 27% en moyenne entre les femmes et les hommes, la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale vise à renforcer l'application du principe d'une même rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Nous exigeons la transposition immédiate de cette directive, la revalorisation salariale des métiers féminisés, éducation, soins, nettoyage, l'interdiction du temps partiel imposé et la transformation des CDD en CDI et la réduction du temps de travail avec embauche correspondante. Nous nous battons pour l'abrogation de la réforme Macron des retraites et pour une réforme des retraites favorable aux femmes, la retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités. Des services publics au service de nos besoins, malgré la paupérisation croissante et le manque crucial d'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la santé, de l'éducation, du logement. Et les femmes en seront doublement pénalisées parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique et qu'elles devront se substituer au service de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance. Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du quatrième âge, et puis de la petite enfance, etc., et avec des crèches qui ne doivent plus être à but lucratif et maltraitantes. Pour un réel partage du travail domestique, nous ne pouvons nous satisfaire que rien ne bouge dans la répartition des tâches au sein des couples, et ce, depuis des années. Cette inégalité dans la répartition du travail domestique se traduit par des inégalités dans la sphère professionnelle et est l'un des facteurs des inégalités salariales et patrimoniales. Nous dénonçons le mirage des nouveaux pères, car les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes, qui de fait prennent plus souvent les tâches valorisantes en laissant les tâches ménagères à leurs compagnes. C'est tout l'enjeu d'une éducation non sexiste qui puisse permettre d'en finir avec les stéréotypes de genre. Notre corps nous appartient. L'inscription dans la constitution de l'IVG ne doit pas masquer les obstacles liés au manque de moyens du service public de la santé pour recourir à l'IVG. Nous réclamons la réouverture des centres d'interruption volontaire de grossesse qui ont été fermés à peu près 130, et on dénonce bien sûr les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+. Et nous exigeons une transition libre et gratuite pour toutes et tous. Voilà, on continue avec Halte aux violences sexistes et sexuelles. Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pelicot a rappelé que les violeurs sont des hommes ordinaires et que la culture du viol persiste dans les différentes strates de la société. La nomination de Darmanin mise en cause pour des violences sexistes et sexuelles comme garde des Sceaux est une véritable provocation. Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous exigeons les 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous refusons que les enfants violés, maltraités, incestés, moi je dis même incestués, continuent le plus souvent à être abandonnés à leur sort. Et dernier aspect, pour l'éducation pour les enfants, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour toutes et tous, maintenant. Mobilisés tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite, le 8 mars, nous manifesterons, nous serons en grève féministe, nous serons en grève sur nos lieux de travail, santé, commerce, en grève du travail domestique et en grève de la consommation. Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. On va écouter Ninon Valder. Thank you.
nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Voilà, on vient d'écouter Ninon Valder. Je cherche le titre, c'est El Corazón al Sur. Et nous l'avons invitée dans une prochaine émission. Elle viendra nous parler de son travail. Alors, 8 publications des éditions du Monde Libertaire. Tous ces livres sont à 10 euros chacun. En février, c'est Abolir l'armée, des textes de l'UPF. En janvier, c'était Terre Sainte, Guerre sans fin, la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie du réseau Macno. En décembre, l'éducation intégrale de Paul Robin, texte sélectionné, expliqué et commenté par Hugues Lenoir. Guerre à la guerre de Pierre Sommermeyer est sorti en novembre 2024. Comme Émilie Lamotte, Vivre en anarchiste de Marie-Pierre Tardif et Sylvain Vagnon. Je crois qu'ils sont de Montpellier, de ce coin-là, je crois. En tout cas, Sylvain Vagnon, je crois. Mmh. Marie-Pierre Tardif, c'est une Québécoise. Mmh. Voilà. Et puis, mon livre qui est sorti en novembre 2024, La guerre contre les femmes contre la guerre. Et en septembre, Pour un dénatalisme libertaire, Ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, par Nicolas Lamblet, que nous avions dans l'émission la semaine dernière. Et il y a un petit moment, Israël-Palestine 2003-2024, chronique libertaire, une guerre qui n'en finit pas, par Pierre Sommermeyer. C'était en mai de 2024. Alors on va écouter Le Temps des cerises, et puis... Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkamp, Fille du Calvaire. La librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, donc du mardi au dimanche et le samedi à partir de 10h. Cette semaine, jeudi 27 février à 19h, rencontre autour de Jean Mecker, Jean Amila, au travers de la réédition illustrée de Le Boucher des Hurlus de Jean Mecker aux éditions Ronce. Le vendredi 28 février à 19h, Livre Segui, petit manuel de lutte contre l'antisémitisme de Ronas Pardo et Samuel Delors. Rencontre débat donc avec les auteurs. Et samedi 1er mars à 20h, Pic Panacé, Lucie Taffin et Martha Del Hano. C'est un concert proposé par Natacha et ça rentre dans le cadre de Mars féministe. Et du 2 mars au 30 mars, une exposition Histoire de grévistes d'Amande Art avec un vernissage dimanche 2 mars à 16h. Et c'est bien sûr dans le cadre du Mars féministe. Et on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on dira la suite du programme de Mars féministe à la librairie Publico. On vous souhaite une bonne soirée. Et féministe.
On va peut-être te donner le programme de la semaine prochaine.
Ah bah oui, heureusement que tu es là. Hein. Heureusement que
tu es là. Je suis un peu.
Oui, c'est vrai. Le programme de la semaine prochaine de Ève à Philomène, on sera le mercredi 5 mars, de Ève à Philomène, sans oublier les autres. Sylvie nous présentera Teresa Claramunt, 1862-1931, ouvrière, militante anarcho-syndicaliste, et féministe libertaire catalane. Et nous recevrons deux chanteuses, Marie-Annick Roussel et Béatrice Cabedos, chantées au féminin, parcours de femmes dans les chansons traditionnelles. Alors cette fois-ci, on peut dire bonsoir.
Bonsoir et féministe tant qu'il le faudra.
On écoute Estelle dans l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.
Vendu, violé, dans toutes les...
refrains à succès. Ressorti adulé, artiste inoubliable, comme un dernier hommage, comme un dernier regret. Je finirai saltimbanque au bistrot des amis. On reprend nos refrains et nos airs de guitare. On fait chanter les filles, on fait danser la vie. On boit à nos romances, à nos belles histoires. On boit à nos romances, à nos belles histoires. À la postérité, mais le bistrot des amis vaut une éternité.
Radio Libertaire 89.4.
Largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés cachent les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon que le soleil dore, quand mai sort des bois réveillés, ce mur que l'histoire décore, qui saigne encore, c'est le tombeau des fusillés. C'est le tombeau des fusillés. Autour de ce tombeau sans bronze, le prolétaire au nez des lois, des héros de 71, écoute chanter les exploits. Est-ce la tempête ou la houle montant à l'assaut d'un écueil? C'est la grande voix de la foule consolant les morts sans cercueil. Écoute, bon bourgeois qui tremble, pleurant ceux qu'on croit oubliés, le peuple tout entier s'assemble et vient ensemble près du tombeau des fusillés, près du tombeau des fusillés. Loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient du peuple. La justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil. Tremblez les lions qu'on courrousse, mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges écloses dans la mousse, l'avenir pousse sur le tombeau des fusillés. Sur le tombeau des fusillés.
Combattant dans les rues qui puent la trique, la moiteur rend, c'est la mauvaise conscience. Gargouille, Ric, Ananto, vitrine gothique, dans la nord, y'a des brancards en cadence.
J'entends.
Hallucinée dans les poubelles, qu'elle n'aurait jamais dû quitter la guerre. 89 c'était leur chiffre à elle, maintenant ça change de date partenaire. J'espère que l'on assassinera Mozart et sa Zygmunt pour nos émotions.